Bienvenue dans le cours « Connaître Dieu », leçon 4. On va aller ensemble dans un mot de prière avant de commencer. Je vous rappelle que les feuilles de notes sont sur la petite table près de l'entrée et on va tout de suite aller dans un mot de prière. Bien, Père éternel, on veut te bénir pour ce dimanche matin, Seigneur, en Église, où on va pouvoir t'adorer, Seigneur, en penchant les regards sur ta parole, en réfléchissant à ta beauté, à ta grandeur, Seigneur, en méditant sur ton amour, sur ta grâce, sur ta sainteté, Seigneur. Ce sont tous des sujets qu'on va aborder ce matin et qui nous parlent de toi, Seigneur. Père, on veut ce matin jouir de ta présence, goûter combien tu es bon, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, de venir nous rencontrer ce matin. À travers la louange, à travers la communion fraternelle, à travers le temps dans ta parole, viens à notre rencontre et parle à nos cœurs par ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Seigneur, nous faire découvrir ta beauté, nous révéler notre faiblesse devant toi, notre besoin de toi, Seigneur, nous conduire encore une fois à la grâce en Jésus-Christ de pouvoir s'approcher de toi. Je te prie, Seigneur, de venir nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, on est dans le cours « Connaître Dieu ». Je m'excuse. On est dans le cours « Connaître Dieu », leçon 4. Simple petit retour très rapide sur la fin de la leçon 3 de la semaine dernière. Très, très bref. À la fin, donc, on tirait trois éléments pratiques dans les notes. Là, je vais les répéter. Là, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir vos notes devant vous, d'accord? Mais, donc, de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Ça veut dire entrer dans une relation personnelle, d'accord? C'est le Dieu qui est une personne qui s'est fait connaître à nous personnellement. Donc, c'est une rencontre entre deux personnes qui est en train de se passer dans cette relation-là avec Dieu. Et connaître Dieu, ça veut dire entrer dans une relation personnelle. Si, dans votre expérience hebdomadaire, régulière avec Dieu, il n'y a pas une relation personnelle qui est là parce que vous venez entendre parler de Dieu, vous venez adorer Dieu, mais il n'y a pas ce dialogue-là pendant la semaine à travers les Écritures, dans la prière, en l'adorant, en répondant à ce qu'il envoie dans votre vie comme bénédiction, comme épreuve, tout ça. Il faut que vous investissiez dans cette relation personnelle-là, d'accord? Connaître Dieu, c'est entrer dans une relation personnelle avec Dieu parce qu'on parle d'une personne qui est venue à notre rencontre. Et je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans ça, mais simplement, on pourrait juste vous demander comment va votre relation personnelle avec Dieu. C'est tout à fait biblique d'approcher Dieu avec ces catégories-là, d'accord? Et donc, ça c'est quelque chose où on doit grandir. Deuxièmement, connaître Dieu, c'est un engagement personnel au niveau de l'intelligence, de la volonté, des sentiments. Un beau passage ici qui est cité, « Goûtez et voyez combien Dieu, combien l'Éternel Yahvé est bon », dit le psalmiste. Et donc, il y a cette idée que je vais goûter Dieu, je vais goûter cette relation avec Dieu, d'accord? Et j'aime bien l'illustration que Packer se sert lorsqu'il dit, bien, on peut vous parler d'un plat, hein, les frères et les sœurs, spécialement les dames, mais de plus en plus les gars aussi qui aiment les livres de recettes, puis ils regardent toutes sortes de recettes, puis la photo est comme oh, incroyable, puis moi je regarde ça, puis déjà mes papilles commencent à saliver. J'aime la bonne bouffe. Mais c'est quand tu le mets dans ta bouche, par exemple. Oh, la première fois que j'ai goûté, il y a du foie gras. Un pâté de foie gras. Là. Incroyable. Bien, dans une certaine mesure, puisque Dieu se sert de ce langage-là, c'est ça aussi la relation avec Dieu. Et donc, vous le savez, dans les rapports humains, lorsque j'ai connu quelqu'un vraiment dans une amitié, dans une relation profonde, je pourrais dire j'ai goûté. D'accord? Et donc, dans notre relation avec Dieu, il doit y avoir cette dimension-là où on va expérimenter Dieu, si je peux dire. J'aime bien rester dans le langage biblique. Mais donc au niveau de l'intelligence, au niveau de ma volonté, de ce que je désire dans mon cœur, je désire cette communion avec Dieu et au niveau de mes sentiments. Donc, je vais m'investir dans cette relation-là. Et enfin, et ça c'est super important de le garder à l'esprit, connaître Dieu, c'est une question de grâce. Je l'ai mentionné à la fin du cours la semaine dernière, mais c'est Dieu qui fait les premiers pas vers nous. Et ça doit rester, ça doit demeurer la base de notre relation avec Dieu. Jamais je vais pouvoir m'enorgueillir véritablement de connaître Dieu, d'accord? S'il y a une chose dont je peux être fier dans ma vie, s'il y a une chose de laquelle sur laquelle je dois concentrer toute ma fierté, c'est d'avoir la grâce de connaître Dieu. Mais ce n'est pas moi qui ai fait les premiers pas, c'est l'Éternel qui a fait les premiers pas vers moi. D'accord? Et donc ça demeure toujours une grâce, c'est lui qui vient vers nous. Lorsque je parle de Dieu aux gens, je dois être conscient de ça, c'est une grâce. Et je peux pas, cette semaine, j'étais en train de parler avec des gens qui sont en train de conseiller quelqu'un. Là, je les écoutais parler, puis à un moment donné, j'ai dit, d'après vous, est-ce qu'il est chrétien? Parce qu'ils étaient comme irrités dans leur cœur de voir qu'il y avait certaines choses qui ne marchaient pas, et une démarche un peu religieuse, vient à l'église parce qu'il faut. Je les écoutais parler, puis je n'avais pas l'impression qu'ils me parlaient d'un chrétien. Mais je dis, est-ce que vous pensez qu'il est chrétien? Est-ce que vous pensez qu'il est né de nouveau? Est-ce que vous croyez qu'il y a l'Esprit de Dieu? Mais justement, c'est ça qu'on se demande. Ah, mais là, ça change tout. Ça change tout. La loi de Dieu pour celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est là pour le conduire à Dieu. D'accord? La loi de Dieu pour celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est là pour l'aider à réaliser qu'il est sans Dieu, qu'il n'arrive pas à marcher avec Dieu. D'accord? Pour celui qui a l'Esprit de Dieu, la loi de Dieu est là pour nous montrer comment on vit par l'Esprit. C'est quoi marcher à la suite de Dieu? Est-ce que vous me suivez là-dessus? Ça va? Ça fait du sens ce que je dis là? Et donc, lorsque j'aborde un non-chrétien, bien, c'est insensé de ma part d'avoir des attentes à ce qu'il comprenne ces choses-là puis qu'il marche selon Dieu sans que ce soit de la religiosité. C'est normal que ce soit une attitude religieuse, d'accord? Il n'a pas été éclairé par l'Esprit de Dieu, donc ça, c'est normal. Et donc, je vais me rappeler que connaître Dieu, c'est une grâce. C'est Dieu qui vient se révéler premièrement à nous. Nous, par nous-mêmes, on n'a pas cette capacité-là d'aller le connaître. Je voulais juste faire cette petite révision-là, là, parce qu'on a fini ça un petit peu sur le fly la semaine dernière. Ça, c'était la leçon 3. On passe véritablement à la leçon 4. Et je vous mentionne tout de suite, cette semaine, moi, je suis en vacances. On pourrait penser à nous, on s'en va dans une région vraiment difficile à vivre. On s'en va en Martinique. Mon épouse va travailler, moi je vais être en vacances. C'est ça la vérité, c'est qu'Esther va enseigner là-bas à une chorale. Maintenant, dimanche prochain, c'est Samuel Gibault qui va me remplacer dans le cours, d'accord? Alors, il va quand même y avoir une leçon dimanche matin prochain. Il va continuer, il va terminer en réalité, là, si vous suivez dans le livre, il va terminer le chapitre 5, puis couvrir le chapitre 6. Dans nos leçons, on va appeler ça la leçon 5, d'accord? Donc, il va compléter ce volet-là. Leçon 4. Le seul vrai Dieu. Je commence avec une citation d'un des pères de l'Église, Hilaire de Poitiers. Voici au haut de la page 1. L'Écriture, tenant compte de l'ignorance et de la faiblesse des hommes, s'exprime avec vigueur lorsqu'elle veut distinguer le vrai Dieu de ceux qui ont été inventés. Elle le contraste spécifiquement avec les idoles. Elle le fait non qu'elle approuve ce que les philosophes ont inventé de séduisant, mais pour mieux faire apparaître la sottise du monde et montrer que tous, en se complaisant dans leurs spéculations, sont hors de sens. En somme, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu veut démontrer que les hommes sont fous en pensant qu'ils peuvent concevoir Dieu par eux-mêmes, imaginer Dieu par eux-mêmes, parce que nous sommes des êtres limités qui essayons d'imaginer ce à quoi ressemble un être illimité, infini. D'une part, sans même tenir en compte le fait qu'on est affecté par le péché et on est dépravé. Aussi, Dieu est-il distingué et toute divinité forgée dans le monde est-elle exclue? Afin que tout ce que les hommes inventent soit réduit à néant et que nous apprenions que Dieu seul peut témoigner de lui-même. En première question, pour simplement nous faire réfléchir, pourquoi Dieu est-il le seul à pouvoir témoigner de lui-même selon vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? Pourquoi Dieu est-il le seul à pouvoir témoigner de lui-même selon vous? Il est le seul à se connaître, il est infini, il est le seul qui peut sonder à son infinité. D'autres réflexions? Parce qu'il est le Créateur. D'accord? est créateur, personne ne peut l'égaler, il est au-dessus de tout. Quelque chose d'autre? Oui, alors aucun homme peut égaler la grandeur de Dieu. Il y a d'autres éléments aussi. Alors, sur la terre, le fait que tous les hommes sont affectés par le péché fait qu'on ne peut pas connaître Dieu. OK? OK? Oui? OK, fait que l'être humain est un être subjectif par définition, alors que Dieu, s'il est parfait, s'il est Dieu, il est parfait, donc il est capable, lui, de se connaître et se faire connaître objectivement, véritablement. Oui. Dieu est esprit aussi. Dieu est esprit. On appréhende beaucoup ce qu'on arrive à voir, à saisir, à rationaliser. D'accord? Alors, vous voyez, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises dans les premières leçons, mais... Si Dieu est le seul qui peut parler de lui-même, parce qu'il peut se révéler lui-même à nous, puis que d'un autre côté, on vit à une époque où l'être humain dit « n'est vrai que ce que j'arrive à comprendre avec ma tête moi-même », on a un sirop de problème. D'accord? On vit à une époque humaniste où c'est la raison de l'homme qui est le bien suprême, qui est l'autorité suprême sur la vie de chacun. C'est généralement comme ça que les gens voient ça. Ce qui est raisonnable pour moi, c'est probablement vrai. Ce qui n'est pas raisonnable pour moi, c'est probablement pas vrai. Mais si d'une part, les êtres humains croient ça, puis d'autre part, Dieu est infini, il y a juste lui qui peut nous faire connaître sa personne, on a un sirop de problème ici. Là. D'accord? Ça part mal, notre affaire. Qu'est-ce qui se produit-il lorsque des hommes se font une représentation matérielle de Dieu, qu'il s'agisse d'une statue ou d'une image? Mais l'élément qu'on veut faire ressortir ici, c'est que d'une part, ça va toujours être une image plus petite que Dieu, d'accord? Je ne peux pas faire une représentation parfaite d'un être infini. Que ce soit une représentation physique, une statue, une image, ou que ce soit une définition, d'accord? Toute définition qui voudrait réduire Dieu en le définissant comme étant moins que l'infini, c'est sûr que c'est faux, d'accord? Donc, toute représentation que je vais me faire de Dieu va être limitée par rapport à Dieu. Ça va toujours être réducteur par rapport à la personne de Dieu, à moins que je le définisse comme l'infini. Est-ce que vous me suivez là où je suis en philo? Ça va? Vous êtes avec moi? Stick with us. Ça va? Eh bien, l'autre problème, évidemment, qu'il y a avec ça, donc d'une part, c'est réducteur. C'est certain que l'image que je vais me faire de Dieu va être réductrice. Ça ne représentera pas vraiment Dieu. Mais d'autre part, ça va être faussé par qui je suis, mon angle de vue à moi, par ma nature pécheresse en plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la projection. Je vais projeter qui je suis dans qui Dieu devrait être. D'accord? Alors que c'est l'inverse. Nous, on a été créés à l'image de Dieu. Dieu n'a pas été créé à notre image. OK? Mais quand l'être humain dit « moi, je peux définir qui est Dieu », inévitablement, il va faire des dieux à son image. Et une des plus belles illustrations de ça, bien, c'est les divinités grecques, qui nous ressemblent tellement, en fin de compte, que ça fait de super sujets pour des comédies, d'accord? Puis pour des drames, puis pour toutes sortes d'histoires où tu vois les vices des dieux. Parce qu'évidemment, ces dieux-là ont été conçus par les hommes et ils ressemblent beaucoup à l'être humain dans ce qu'on a de plus beau, mais dans ce qu'on a de plus laid aussi. Que s'est-il produit lorsque le peuple d'Israël a fabriqué le veau d'or? Qu'est-ce que cela a eu comme conséquence dans leur compréhension de Dieu? Bien, c'est ça, c'est une approche qui est réductrice, d'accord? On réduit, je vais avancer un petit peu, Gérard. C'est une question ou c'est un commentaire? Vas-y. OK. La question de Gérard, c'est si, admettons, on prenait toutes les personnes qui ont eu des révélations de Dieu, c'est un petit peu ça ton idée, dans les Écritures, Moïse, Paul, tout ça, est-ce qu'on peut dire que c'est partiel comme révélation, mais exact en même temps? Oui, parce que c'est une révélation qui vient de l'Esprit de Dieu. D'accord? Alors, la révélation, là, c'est tout le sujet de la révélation, là, mais puis de l'inspiration des Écritures. Mais puisqu'on dit que les Écritures, on croit que les Écritures sont inspirées de Dieu, ce qu'elles nous révèlent sur Dieu est exact. Ça ne veut pas dire que c'est complet, c'est partiel. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de mystère. Et ça revient à un commentaire que j'ai fait dans les dernières semaines. Certaines religions, dans un sens, ressemblent un petit peu à une approche humaniste. Ils vont dire, moi, je vais accepter une révélation, un texte qui se dirait, un livre qui se dirait révélation de Dieu, dans la mesure où tout ce qui est écrit là-dedans est fait du sens pour moi, est logique pour moi. Et il n'y a pas de place pour le mystère. Et lorsque j'approche Dieu, puis Dieu à travers la révélation en disant, écoute, ça marche pour moi, là, c'est bon pour moi si tout fait du sens. Ouais, mais c'est de Dieu que tu parles. Donc, ça se peut qu'il y ait des mystères aussi. OK? Puis j'avais donné l'illustration avec les témoins de Jéhovah, avec les musulmans. Ils ont une approche très, très rationnelle, ce qui fait que lorsque tu arrives devant des aspects de la personne de Dieu qui sont mystérieuses, ils les rejettent à ce moment-là. Sans nécessairement consciemment réaliser qu'ils sont en train de je veux dire, c'est très, très prétentieux. Je ne dis pas que c'est de l'orgueil de leur part, là, mais vous comprenez, c'est absurde de dire que moi, comme être humain, il faut absolument, si Dieu se révèle à moi, il faut que tout soit logique pour moi, puis j'ai tout compris Dieu à travers sa révélation. Mais c'est Dieu. Il va rester une part de mystère. D'accord? Maintenant, un jour, on va voir Dieu en face. On va connaître comme on a été connu, ça va être une autre chose. Mais donc, pour répondre à ton commentaire ou à ta question, oui, la révélation qu'on a, elle est exacte. Mais elle est partielle. Donc, il reste des mystères. Il reste des mystères, puis je crois que de ce côté-ci de l'éternité, ça fait partie des beautés de la foi, de vivre avec ces mystères-là, puis d'adorer ce Dieu-là qui est tellement plus grand que nous. Au bas de la page 1, je vous dis, j'ai beaucoup de citations dans cette leçon-là. Je suis allé avec un peu plus de citations. Je manquais un petit peu de temps pour rédiger plusieurs textes par moi-même, là. Donc, vous allez, soyez pas surpris, il y a beaucoup de citations. Combien de fois entendons-nous des phrases du genre? Et soyez attentifs à ça parce que certaines de ces phrases-là, vous les dites. D'accord? Et il faut qu'on soit attentif à ça lorsque c'est ce genre de pensée-là qui se promène dans notre tête. Combien de fois entendons-nous des phrases du genre « J'aime voir en Dieu un grand architecte ou un grand mathématicien ou un grand artiste » Ou encore, plus négativement, je ne peux pas penser à Dieu comme à un juge. J'aime penser à lui simplement comme à un père. Quand je suis en train de faire ça, je suis en train de réduire Dieu. D'accord? Je suis en train de, possiblement, de rejeter certains aspects de sa personne. On va se servir d'images, ceux qui enseignent, on va servir, lorsqu'on enseigne à nos enfants. Puis là, les enfants arrivent puis ils disent, « Papa, Dieu, je ne le vois pas. Il est où, Dieu? Il est au ciel. » Je viens de dire une demi-vérité, là. Il est ici, tu ne le vois pas? Il est ici aussi. Fait que quand on veut enseigner, on va se servir d'image. C'est vrai qu'on va se servir d'image. Mais je reconnais la limite de l'image que j'utilise. Et ce n'est pas que je refuse d'autres aspects de sa révélation, de sa personne, tout ça. C'est juste que cette image-là est pour décrire une partie de sa personne. Dieu se présente comme père, il se présente comme mère. Maintenant, Dieu s'associe au sexe masculin, c'est Dieu le père. Mais ailleurs, pour parler de certains aspects de sa personne, il va dire « je suis comme une mère ». D'accord? Et donc, je peux me servir d'images pour m'aider à comprendre qui est Dieu. Mais ces images-là ne doivent pas me conduire à dire « ben moi, c'est comme ça que je vois Dieu, puis c'est comme ça que je veux voir Dieu ». Parce que là, je suis en train de restreindre qui il est. Dieu est à la fois comme ce souffle doux qui fait entendre, ce vent doux et chaud qui fait entendre à Élie. C'est vrai. Dieu est consolation, il est douceur, c'est un bon berger. Mais Dieu est aussi cette voix qui a été entendue sur le mont Sinaï à travers le tonnerre. Ben moi, je préfère voir Dieu comme cette voix douce. C'est une partie de Dieu. Si tu t'arrêtes là, tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu, c'est aussi ce tonnerre-là qui s'est fait entendre à un point tel où Israël a dit « Arrête, arrête, on t'a assez entendu. C'est insupportable de voir ta grandeur. On est terrifié. » D'accord? Alors, les images nous aident à comprendre qui est Dieu, mais les images, je n'ai pas la liberté et je ne dois pas le faire. Je ne dois pas m'imaginer Dieu comme je le voudrais en le définissant comme moi je le verrais. Je veux dire, on fait ça dans une relation de couple. Moi, je veux voir mon épouse comme ça. Oui, mais est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Puis moi, je l'imagine comme ça. Puis souvent, ça va être, si on est en conflit, ça va être à travers les péchés. Puis là, on va définir la personne à travers ce péché-là. Bon, ben Yannick, c'est pas compliqué. Yannick, c'est un colérique. Ah, Yannick, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est un combat. C'est parfois une force, parfois une faiblesse. Mais c'est beaucoup plus que ça, Yannick. D'accord? Et donc, je n'ai pas le droit de réduire comme ça. Fait que, soyez attentifs dans vos discours intérieurs. Comment est-ce que vous définissez Dieu? Si je vous demandais de me dire comment vous voyez Dieu, les images devraient être multiples. Il devrait y avoir une multitude d'images. Des fois, ça va sortir. Je vous le dis comme ça. Je vous encourage à ne pas faire une chasse aux sorcières avec ça, mais pour vous-même, d'accord? Des fois, ça va paraître dans notre vie de prière. Si la manière que vous vous adressez à Dieu, c'est toujours, toujours, toujours de la même manière, il y a quelque chose qui manque de la beauté de la révélation. Parce que Dieu a des centaines de noms dans les Écritures. Et dans la Trinité, il y a le Père, le Fils, l'Esprit. Alors, qui vous priez? À qui vous vous adressez? Comment vous vous adressez à Dieu? Possiblement que ça révèle le fait que vous êtes juste sur une image de Dieu. Mais Dieu est beaucoup plus vaste que ça comme personne. D'accord? Et donc, dans ma prière, ces éléments-là vont venir enrichir. Au fur et à mesure que je connais Dieu dans tout ce qu'il est comme personne, bien, dépendamment de ce que je suis en train de vivre, dépendamment de ce qui est en train de se passer, je vais prier Dieu différemment. Parce que je veux me rappeler sa douceur, je veux me rappeler sa puissance, je veux me rappeler sa colère. Quand je suis en train de suivre l'actualité, puis que j'entends parler de gens qui font des violences, des choses comme ça, bien oui, par moments, j'ai besoin de me rappeler que Dieu est aussi colère, parce qu'il est justice. Puis je m'adresse à ce Dieu-là. C'est le même, vous comprenez? Mais je m'adresse à lui pour ça. Puis je dis, Seigneur, prends des notes, Seigneur, ça se peut pas. Prends des notes pour le jour du jugement, Seigneur. Vois les orphelins, vois les veuves, vois ceux qui souffrent, vois ceux qui sont abusés. Vois toutes les détresses dans le monde, Seigneur. Je ne m'adresse pas à la petite voix, là. Comprenez? Qu'il y a entendu. Mais d'autres fois, c'est celle-là. C'est celle-là à qui je veux m'adresser. C'est toujours la même personne. Puis ensuite, il y a cette idée que l'homme, l'être humain, veut se servir de sa sagesse pour définir Dieu. Beau passage dans 1 Corinthiens 1, 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Alors c'est vrai, l'être humain veut raisonner, veut définir avec sa raison qui est Dieu. Puis lorsqu'on prêche Dieu tel qu'il s'est révélé dans les Écritures, bien souvent ça apparaît comme de la folie aux hommes, bien souvent. Mais c'est parce que l'homme ne peut pas connaître Dieu par lui-même. Lorsqu'il essaie de le faire, et il essaie de le faire, il essaie de le définir, bien, il arrive à des raisonnements comme à notre époque, finalement, Nietzsche, Dieu est mort. J'ai connu Dieu, Dieu est mort. Ça, c'est ce que tu as saisi avec ta sagesse, mon ami. C'est tout ce que tu as pu comprendre avec ta sagesse. Et donc, lorsqu'on prêche, on prêche la folie. On prêche la folie parce qu'on prêche le Dieu des Écritures qui ne fait pas du sens nécessairement à celui qui n'est pas attiré à Dieu par son esprit. C'est Dieu qui doit faire les premiers pas. En théologie, suivre les inclinations de notre cœur est le meilleur moyen de ne jamais connaître Dieu et de devenir idolâtre. L'idole est alors la fausse image mentale de Dieu que la spéculation et l'imagination ont forgée. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Est-ce qu'on est en train de dire que tout ce qu'on vit comme émotion, tout ce que je peux expérimenter par rapport à Dieu ou imaginer par rapport à Dieu lorsque je suis en train, admettons, de regarder un coucher de soleil. Esther et moi, on s'en va en vacances. On va voir des aspects de la nature avec nos yeux qu'on n'a jamais vus comme ça. Il va y avoir des moments d'émerveillement incroyables. Et ces choses-là vont nous parler de Dieu puisque la nature nous parle de Dieu. Donc, est-ce que ça veut dire que, tu sais, donc mon cœur va être incliné quelque part? Est-ce que ça veut dire que tout ce que je vais conclure sur Dieu va être faux? À ce moment-là, c'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire que si la base de ma connaissance de Dieu, c'est là où mon cœur est porté, comment est-ce que je veux imaginer Dieu, les sentiments du moment, c'est probablement la meilleure manière de ne jamais connaître Dieu véritablement. Et je vais vous donner un exemple assez cru, d'accord? Imaginez un instant, et malheureusement c'est le cas pour bien des jeunes hommes, imaginez un instant que tout ce qu'un homme connaîtrait de la femme, ce serait ce qu'il peut découvrir sur Internet à travers la pornographie. Pas de relation véritable avec une femme, pas d'échange véritable, pas d'écoute, toujours en train de le regarder à travers un écran, puis toujours en train de sélectionner ce que lui veut comme image de la femme. Suit l'inclinaison de son cœur. Ça l'amène à définir la femme comme il le veut, selon les désirs de son cœur pécheur. Est-ce que vraiment cet homme-là va connaître ce que c'est une femme? Suivre les inclinaisons de mon cœur, simplement comme base de la connaissance de Dieu, c'est certainement le meilleur moyen de ne jamais connaître Dieu. Parce qu'on l'a dit la semaine dernière, pour connaître quelqu'un, il faut que la personne se révèle à nous. Pour connaître quelqu'un, il faut que j'écoute la personne. Dieu a parlé à travers sa parole. D'accord? Et donc, je m'en vais à sa rencontre pour qu'il me parle de lui. De la même manière que si je veux connaître mon épouse, il faut non seulement que j'ai une image puis que je l'observe, mais il faut que je l'écoute. Il faut que je l'écoute me parler d'elle, de ce qui se passe dans son cœur. Et là, je vais pouvoir dire, je connais mon épouse. Est-ce que vous avez entendu ça? Okay. Je voulais juste savoir si j'entendais des voix. Nouvelle révélation. On va avancer. Le temps file. Ésaïe 55, 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, comment est-ce qu'on peut connaître Dieu si Dieu est tellement inaccessible? Dieu est absolument extraordinaire. Il est venu à notre rencontre littéralement, dans l'incarnation. Voici ce que nous propose G.I. Packer. Il dit, « Je vous propose ce test au bas de la page 2. Le Dieu de la Bible a parlé par son Fils. C'est la face du Christ qui reflète la lumière de la connaissance de sa gloire. Alors, est-ce pour moi une habitude familière que de regarder à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ pour trouver en elle la vérité ultime sur la nature de Dieu? » Quand vous lisez ce que Jésus a fait, quand vous lisez ses paroles, ses actions, est-ce que vous voyez Dieu? Est-ce que pour vous, c'est égal Dieu? Chaque fois que vous lisez ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit. Parce que c'est ça qu'il a dit à Thomas. Il a dit, « Thomas, tu es avec moi depuis tout le temps, puis tu n'as pas connu le Père? Mais tu m'as connu, Thomas, tu as connu le Père? » Dieu a eu compassion de nous, s'est incarné, il est venu dans la personne de son Fils, marcher parmi les hommes. Et lorsque je connais Christ, je connais Dieu. Lorsque je connais Jésus-Christ, je connais Dieu. J'aime bien ce que Packer fait lorsqu'il dit probablement que l'incarnation, c'est le mystère le plus difficile à accepter pour les hommes. L'idée que Dieu soit devenu un homme, il n'est pas apparu sous une forme humaine, il est devenu homme, il s'est fait homme. Saisir Jésus-Christ, le connaître de plus en plus, ne serait-ce pas s'approcher le plus possible d'une image juste de Dieu? Alors, certains d'entre vous, dans votre relation avec Dieu, vous dites, j'ai de la difficulté avec Dieu le Père. J'ai un petit peu de difficulté à m'adresser au Père, à être en relation avec lui, mais c'est plus facile pour moi quand je pense à Jésus. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans? Si tu aimes Jésus, tu aimes le Père. Si tu imagines que le Père est différent de Jésus, dans ses qualités, dans son amour, dans sa douceur, dans sa charité, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Jésus est l'expression parfaite du Père. Il est la manifestation parfaite du Père. Alors, si dans ton imagination, quand tu conçois Dieu, dans ta relation avec Dieu, tu as comme de la crainte à aller vers le Père, mais... Ah oui, Jésus, il est plus humain. Non, Jésus, il est plus divin. Il n'est pas plus humain. Oui. Oui. Oui, c'est ça. c'est super. J'aurais voulu avoir un micro ici, juste pour que tu répètes ce que tu viens de dire là. On a-tu un micro, Étienne, de disponible ou il est là-bas? On peut-tu te l'emprunter, Oscar? J'aimerais ça juste que tu répètes ça, c'est super important. Juste ici. Puis corrige-toi pas, tu t'es corrigé déjà en parlant. Corrige-toi pas, s'il te plaît. Ramène ça exactement comme tu l'as dit.
Non, mais c'est ça, c'est juste instinctivement. Moi, quand je pense à... Quand Jésus est venu, il a dit, tu sais, que moi, je ne vous juge pas, puis... Tu sais, je pense automatiquement que le Père est au ciel, il juge, puis que Jésus, pendant qu'il est sur terre, il nous jugeait pas, il nous pardonnait. Mais c'est peut-être pour ça que plus de difficultés à s'associer, à penser au Père. Mais quoi que, tu sais, c'est Jésus qui va juger, rendu au ciel quand même, mais dans la Bible, le récit de sur terre, il nous juge pas. Okay.
Ouais. OK, excellent, excellent. Mais voyez-vous, ça, Simon illustre super bien, comme par réflexe, la manière qu'on souvent, là, moi aussi, qu'on a tendance à voir Dieu dans la Trinité. C'est comme si lorsque Jésus est venu, ça a fait du bien. Il nous a donné un break du Père. Tu sais? Puis là, on n'était plus devant le Dieu guerrier, puis le Dieu de justice, puis bang, bang, bang. Là, enfin, on avait quelqu'un qui nous comprend. Peut-être. Peut-être que cet élément où Christ a appris l'obéissance, tu sais, à travers la souffrance. Mais au-delà de ça, là, au-delà de ça, là, c'est exactement la même personne. Puis comme Simon l'a dit, justement, j'ai un ami d'ailleurs qui, comme il me dit lorsqu'on s'écrit, il dit, je suis un demi-chrétien. Fait que, parce qu'il dit, moi, il dit, le Dieu du Nouveau Testament, il dit, Jésus, c'est super, mais le Dieu de l'Ancien Testament, je ne suis pas capable. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, là. Mais puis à chaque fois, je lui dis, regarde, c'est juste parce que tu n'as pas compris qui est Christ. Il faut aller à l'Apocalypse, mon homme. L'Ancien Testament, là, je te dis, c'est un bain de mousse. C'est un bain de mousse comparé à l'Apocalypse. Attends de voir Jésus arriver dans l'Apocalypse, toi. Pas sûr que tu vas le trouver cute, le petit bébé, dans son berceau. Fait que, voyez-vous, fait que ça illustre ça. Et donc, ce que je dois comprendre lorsque je vois Jésus qui dit « Je ne vous juge pas », je dois comprendre tout le message de Jésus. D'accord? Il est en train d'annoncer sa grâce. Il est en train d'annoncer sa grâce. Il est en train de dire « Je sais de quoi vous êtes fait ». Mais le Dieu de l'Ancien Testament le dit, ça, dans l'Ancien Testament. Soit dit en passant, quand il parlait dans l'Ancien Testament, c'était le Logos, la parole qui parlait. C'était Jésus qui parlait, d'accord? Parce que Dieu parle toujours à travers sa parole. Donc, c'est le Fils. C'est pas Jésus de Nazareth, là. Il n'est pas encore incarné. D'accord? Mais c'est la même personne. C'est la même personne. Et donc, si aller vers Jésus dans les évangiles me permet de croire plus dans la douceur, dans la bonté, dans la sensibilité de Dieu, amen. Amen. Jésus est là pour me faire connaître le Père. Mais je dois grandir dans ma compréhension de Dieu au point d'arriver puis de dire, c'est le même. C'est juste que il y avait une partie de sa personne qui n'avait pas révélé aussi parfaitement dans l'Ancien Testament que lorsqu'on arrive à Jésus. Et ça, c'est vrai. D'accord? Quand on pose toute la question, par exemple, là, je vais faire un petit détour un petit peu philosophique. OK, vite, vite. Quand on pose toute la question, oui, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu le mal? Pourquoi est-ce qu'il a fallu le péché? Pourquoi est-ce qu'il a fallu tout ça? Pour nous faire connaître Dieu. Ça faisait partie des desseins de Dieu parce que Dieu nous fait connaître parfaitement qui il est à la croix. C'est dans la grâce, dans le sacrifice, dans le fait que Dieu s'offre lui-même en sacrifice pour nos péchés, qu'on découvre le Dieu rédempteur, le Dieu gracieux, le Dieu bon. Et lorsque j'arrive dans l'éternité, ce qui est au centre de l'adoration, c'est l'agneau immolé qui est assis sur le trône victorieux. Alors voyez-vous, je connais parfaitement Dieu lorsque Christ vient, qu'il meurt sur la croix, qu'il ressuscite d'entre les morts. C'est dans la grâce qui est là que je peux connaître parfaitement qui est Dieu. Donc, c'est normal, puis c'est sain que je dise, « Ouais, mais quand je lis l'Ancien Testament, là, puis j'arrive pouf au Nouveau Testament, là, il me semble que là, je découvre. » Là. Je comprends qu'il disait dans l'Ancien Testament, mais je ne le voyais pas de la même manière, à quel point il est bon, à quel point il est doux, à quel point il nous comprend, à quel point il a compassion, à quel point il est gracieux. Là, je découvre toute sa tendresse. Ça va, c'est parfait. C'est comme ça que Dieu le voulait, c'est une révélation progressive qu'on dit la Bible, d'accord? Mais en même temps, à un moment donné, je dois grandir dans ma compréhension de Dieu et dire, comme Jésus a dit à Thomas, « Tu m'as connu? Tu as connu le Père? » C'est pas, on n'est pas deux, là. Il y a trois personnes en Dieu, mais c'est tout Dieu. D'accord? Oui, Dave. Ils ne comprennent pas le péché. La violence de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est une réaction contre le péché. Et lorsque les gens... Ce qui est génial, c'est lorsque tu parles avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, okay? Pas très familier avec les Écritures, puis tu lui racontes l'Évangile, juste l'Évangile. Puis là, il dit quelque chose comme, « Moi, un Dieu aussi cruel que ça, j'en veux pas. » Comment est-ce qu'il s'appelle celui qui est décédé... Esther est partie, hein? Sylvain Lelièvre avait une de ses chansons où il parle de Père Abraham. Puis il raconte l'histoire d'Abraham qui se prépare à sacrifier son fils à la demande de Dieu. Puis il dit, il adresse sa chanson à son père. Puis il dit, toi papa, t'es pas comme ça. Jamais t'aurais fait ça. Des fois, on raconte l'Évangile à des gens qui n'ont aucune culture biblique, connaissent pas ça. On leur raconte ça. Puis là ils réalisent qu'attends un peu, là, attends un peu là. T'es en train de me dire qu'il a envoyé son fils puis il l'a tué. Le laisser mourir. Pensez-y juste une seconde. Non? Dans l'Ancien Testament, tous les gens qui meurent, c'est des méchants. Dans le Nouveau Testament, celui qui meurt, c'est un innocent. C'est quoi qui est le plus violent entre les deux? Tuer un innocent ou tuer des coupables? Mais c'est parce que dans notre esprit à nous, on n'est pas vraiment coupable. Puis Jésus, c'est lui qui nous a créés. Il fallait bien qu'il paye pour qu'on soit sauvés. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on réfléchit. D'accord? Mais en réalité, le Nouveau Testament est un million de fois plus violent. C'est la seule place dans la Bible où tu as vraiment un innocent qui paye. D'accord? Alors que dans tout l'Ancien Testament, c'est des coupables qui payent. Puis au jugement dernier, c'est juste des coupables qui payent. Faites-vous-en pour au jugement dernier, il n'y a pas un innocent qui va être condamné, je vous l'assure. Dieu est juste. Dieu est juste. Le problème, c'est qu'on pense qu'on n'est pas coupable. On ne mesure pas la mesure de notre péché. Alors, ce mystère-là de l'incarnation est probablement l'aspect du christianisme le plus difficile à accepter. Et lorsqu'on jase avec des amis musulmans, tout ça, c'est l'élément qui les scandalise le plus. Ça ne rentre pas dans leur esprit que Dieu ait pu véritablement devenir un homme, qui n'est pas juste une personnification, il n'a pas emprunté un personnage, il est véritablement devenu homme et il a joint sa nature divine à une nature humaine. J'aime bien cette déclaration-là au milieu de la page 3. La vérité de l'incarnation dépasse la plus fantastique des fictions. Et c'est vrai. C'est absolument vrai. C'est un des défis, je trouve. Je fais juste un petit commentaire on the side, là. Je trouve que c'est un des défis qu'on a à notre époque. Le visuel, le fantastique, les films, tout ça, les romans, tout ça sont devenus tellement emballants que nos enfants trouve que la Bible n'est pas aussi fantastique que ça. Mais en réalité, toute la science-fiction, toute l'imagination qu'on a pour parler de monde fantastique, soit Star Trek, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, n'importe quoi, c'est jamais aussi extraordinaire qu'une incarnation. C'est jamais aussi fantastique que ça. Et écoutez, il n'y a pas de science-fiction qui égale ça. Dieu, l'être infini, qui joint sa nature divine et infinie à une nature humaine, finie, limitée, pour venir mourir sur la croix, pour des coupables. Il n'y en a pas de science-fiction qui égale ça. D'ailleurs, 99% des histoires de science-fiction, c'est des histoires de rédemption. D'accord? Donc, ils s'inspirent de ça. Mais on a un travail à faire comme parents, comme Église, pour aider les jeunes gens à découvrir à quel point c'est merveilleux. C'est beaucoup plus merveilleux que Le Seigneur des Anneaux. dans le visuel dans les films fait que au lieu de faire aller notre imagination, on est juste comme nourri par des images, tu sais. Mais c'est pour ça que des gars comme C.S. Lewis, puis Tolkien, puis ces gars-là se plaisaient à écrire des ouvrages de fiction, des romans, même de science-fiction, inspirés des concepts bibliques pour pointer vers, nous ramener vers, d'accord? Nous ramener vers ce qu'il y a de plus fantastique encore que ce qu'un être humain pourrait imaginer, l'incarnation. Au bas de la page 3, le paragraphe juste avant, si Jésus n'avait été qu'un homme d'une piété tout à fait remarquable, nous aurions les pires difficultés à croire ce que le Nouveau Testament nous dit de sa vie et de son œuvre. Parce que ça serait difficile à croire qu'un homme ait fait tout ça. Mais si Jésus est le Verbe éternel, la parole, nous dit l'apôtre Jean, on va arriver dans quelques instants dans Jean 1. Mais si Jésus est le Verbe éternel, et le Verbe éternel n'était qu'une seule et même personne, si Jésus était le représentant du Père dans la création, celui par lequel il a créé l'univers, il n'y a plus rien d'étonnant à ce que de nouvelles manifestations de sa puissance créatrice aient marqué son entrée dans le monde. Sa vie ici-bas est son départ de cette terre. Il n'y a plus rien d'extraordinaire à ce qu'il soit ressuscité d'entre les morts, lui l'auteur de la vie. Alors si Jésus, c'est Dieu incarné, Dieu le Fils, je veux dire, à la création du monde, il a dit et la terre a été. Il n'y a plus rien de surprenant. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut s'adresser à la mer et dire « Silence, ferme-la. » Puis elle s'arrête. C'est lui qui a créé. Une fois reconnu la divinité de Jésus, il devient absurde de continuer à voir partout des difficultés. Tout est lié, tout s'enchaîne parfaitement. L'incarnation est en elle-même un mystère insondable, mais elle donne tout son sens au reste du Nouveau Testament. Et là, ce que je veux faire, c'est que on va aller tout de suite un petit peu plus bas dans la page 4, parce qu'il me reste à peu près 13 minutes, d'accord? Fait que, juste retournez avec moi, là, si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, ouvrez l'Évangile de Jean, au chapitre 1. L'Évangile de Jean, c'est mon évangile préféré. Pour moi, ça a été fondateur vraiment dans ma foi parce que ça me réconciliait avec la philosophie, ça me réconciliait avec beaucoup de choses de comprendre qui est Christ. Puis tout ça se passe dans l'introduction de l'Évangile de Jean, d'accord? Dans les 14 premiers versets. Ce qu'on appelle le prologue ou l'introduction. Puis je vais vous lire les 4 premiers versets. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Dieu à partir de ça? Sans regarder vos notes, est-ce qu'il y en a qui peuvent juste nous dire qu'est-ce qu'on apprend sur Christ et sur Dieu à partir de ces 4 versets-là? Juste quelques brèves qui peuvent nous sortir quelques idées. De toute façon, on va les mettre dans l'ordre. Son infinité. L'infinité de Christ. OK. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Christ? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Son infinité. Quoi d'autre? Il s'est fait chair, il s'est incarné. Cet être infini-là s'est incarné. Oui? OK, il s'agit d'une seule personne. Il était avec Dieu, il était Dieu. Donc, il y a plus qu'une personne dans une personne. Edna, tu disais? Sa préscience, le fait qu'il connaissait toute chose, s'il est éternel, définitivement. Oui, Louis, puis après ça, Linda. Ça veut dire que le Logos, cet être-là, était là déjà au commencement. Linda? OK. Et c'est lui qui vient éclairer les hommes. OK, c'est bon. Excellent. Fait qu'on va mettre ça dans l'ordre, puis juste tirer quelques conclusions de ce passage-là, d'accord? Premièrement, au commencement était la parole. Ceci établit le caractère éternel de la parole. Elle n'a pas eu de commencement. Quand tout a commencé, elle était. D'accord? Donc, la parole était là. Jusqu'ici, on ne sait pas c'est qui la parole. Okay, dans le Logos, dans Jean, ici, dans le prologue, on ne sait pas encore c'est qui la parole. On va l'apprendre au verset 14. Donc, ceux qui ne sont pas familiers, vous pouvez juste aller lire le verset 14 vite. Là. Mais c'est là qu'on voit toute cette notion d'incarnation dans la personne du Fils. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole était éternelle. Elle était là avant le commencement. C'est par elle que les choses ont été créées. Donc, hors du temps. Je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas si de temps en temps vous vous amusez à juste à réfléchir à cette réalité-là que Dieu existe hors du temps. Nous, on part cette nuit-là à 3 heures, il faut se lever pour ne pas manquer l'avion puis tout ça. Puis on est tous stressés. Il y a des semaines qu'on est stressé à s'organiser, à être prêt, les rapports d'impôts avant de partir. Puis tout arrive en même temps, là, tu sais. Fait que nous, on vit dans le temps constamment avec ce stress-là. Tantôt, je prêche, j'ai-tu assez dormi cette nuit? On vit dans le temps. Dieu est à l'extérieur du temps. C'est lui qui a créé le temps. Hier, aujourd'hui, demain, Adam, la fin de l'Apocalypse, il n'y a pas d'espace-temps pour lui. Il est hors du temps. D'accord? Mais là, ce qu'on apprend ici, c'est que la parole aussi était hors du temps. Je n'ai pas encore dit c'est qui, mais la parole était hors du temps. Deuxièmement, la parole était avec Dieu. Ceci établit le caractère personnel de la parole. Ça a été soulevé par deux personnes. Donc, on a cette idée que la parole, en même temps, c'est Dieu, mais est avec Dieu. Donc, il y a une distinction à faire aussi. D'accord? Lorsqu'on parle de votre parole à vous, on ne va pas dire que c'est quelqu'un d'autre. On s'entend. Mais là, cette parole-là, ce n'est pas exactement comme notre parole à nous. D'accord? Il y a des similitudes, mais il y a des différences importantes aussi. Ceci établit le caractère personnel de la parole. La puissance qui accomplit les desseins de Dieu est celle d'un être distinct et individualisé qui demeure éternellement dans une communion agissante avec Dieu. Alors, on a deux personnes qui apparaissent ici. Et donc, c'est deux êtres. En même temps, ça va être un être. Ça va être un mystère. La parole était Dieu. Troisième, ceci établit la nature divine de la parole qui, bien que distincte du Père, en tant que personne, n'est pas une créature. Si vous jasez avec des témoins de Jéhovah, puis ils disent non, il y a une nuance dans le grec ici, puis c'était un Dieu. Tout en étant respectueux, là, c'est vraiment qu'ils n'ont aucune notion de base en grec. C'est un argument complètement ridicule. Le grec est construit avec des déclinaisons comme l'allemand puis le latin. Puis théos, c'est juste décliné ici parce qu'il joue un autre rôle que le rôle de sujet dans la phrase. D'accord? Mais ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas de majuscule puis de minuscule en grec. D'abord, à l'époque de la rédaction du Nouveau Testament, ils écrivaient uniquement en cursive, il n'y avait même pas d'espace entre les mots, il n'y avait pas de ponctuation, d'accord? Fait que de commencer à dire que c'est un petit D ou un grand D pour ce Dieu-là, c'est un argument qui... c'est une pure invention, d'accord? Oui, à part les témoins de Jéhovah, tout le monde dit la même chose. Les musulmans, ben eux autres vont dire que c'est juste qu'on a modifié. Les musulmans croient dans l'Évangile, mais un Évangile qui n'existe plus. Donc, il y aurait un livre écrit qui raconterait la vie de Jésus, mais cette version-là n'existe plus. Elle a été altérée par les chrétiens pour élever ce prophète-là au rang de Dieu. D'accord? Ça, c'est leur vision des choses. Mais pour les autres qui reconnaissent la Bible comme la parole de Dieu, conservée par Dieu, tout ça, tout le monde est d'accord. Ça va? Et d'ailleurs, la divinité de Christ, c'est quelque chose qui a été clairement accepté par l'Église très, très tôt. Là. Ça a été débattu au départ. Oui, il y en avait qui disaient « Oh, attends un peu, là, c'est comme fort. » Parce qu'il y a des passages où tu as l'impression que Jésus il dit « Ouais, mais attends un peu. Là. Pourquoi tu dis que je suis Dieu? » Tu sais, fait que là, c'est troublant. Mais quand tu prends l'ensemble de la révélation, c'est très clair. Fait que la parole était Dieu. Ceci établit la nature divine de la parole. Je l'ai déjà lu, je ne vais pas me répéter. Okay, qui est bien distincte en tant que personne, n'est pas une créature. Elle est, tout comme le Père, d'essence divine. Ça veut dire de la même nature divine, d'accord? Il n'est pas comme un sous-produit, il n'est pas comme une créature, il n'est pas comme une création, même si des fois il va utiliser ce langage-là, d'accord? La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ceci établit l'action créatrice de la parole. Elle était à l'œuvre avec le Père dans chacun de ses actes créateurs. Il n'y a rien que Dieu a fait qui qu'il n'a pas fait par le Fils, par la parole. Tout ce que Dieu a fait, c'est par la parole qu'il l'a fait, d'accord? Et donc, il est là, Christ est là, pas Jésus de Nazareth, là, mais le Fils est là dans chacun des gestes créateurs de Dieu, à chaque instant. Tout ce qui a été fait par, avec sa participation. Point 5, en elle était la vie. Ceci établit le caractère vivifiant de la parole. Il ne peut y avoir de vie physique dans le domaine des choses créées si ce n'est en elle et par elle. Alors, quand Jésus dit à la femme samaritaine, « Si tu savais qui je suis, tu me demanderais à moi de te donner de l'eau de vie, parce que celui qui croit en moi de son sein, les fleuves éternels vont jaillir. » Oui, parce que c'est Christ qui est la vie. C'est lui le Créateur. Il était là au début, c'est lui qui a créé la vie. C'est de lui qui émane la vie. Il est la vie. La deuxième partie de ce même point-là, le point 5, nous avons là la réponse biblique au problème de l'origine et du maintien de la vie sous toutes ses formes. C'est la parole qui donne et qui maintient la vie. Si Christ est la vie, ça veut dire que même ce qui continue à exister actuellement, c'est parce que Christ le désire. Est-ce que vous me suivez? On a tendance dans notre vision de Dieu, dans notre vision matérialiste des choses, hein? Nous, on met un enfant au monde, puis cet enfant-là vit sans moi. Au début, il a besoin de moi, mais éventuellement, je veux dire, il vit sans moi. Il n'a pas besoin que je sois là pour soutenir sa vie. C'est lui qui va me soutenir dans mes vieux jours. D'accord? Mais Dieu est la vie. C'est de lui qui émane la vie. Et donc, on n'est jamais autonome de Dieu. On n'est jamais indépendant du fait que Dieu soutient toute chose. Si Christ décide que la vie arrête, la vie arrête. Il n'y a pas d'indépendance envers Dieu. Je vis sur du temps que Dieu me donne, je respire de l'air qu'il me partage, mon cœur bat parce qu'il a décidé qu'il y a encore une pulsion. S'il décide que mon cœur arrête de battre, c'est pas juste qu'il intervient dans ma vie puis il arrête mon cœur de battre. Je ne suis pas autonome. Je ne suis pas séparé de l'univers. Cesse d'exister si Dieu décide que l'univers cesse d'exister. Il n'y a pas besoin de la détruire, il n'y a pas besoin de l'attaquer. Il y aurait juste besoin de dire « on recommence ». Comprenez, il n'y a pas besoin de le détruire. Moi, lorsque je mets quelqu'un au monde, quand je mets quelque chose, je fais une toile, je fais un tableau. Ce tableau-là existe à l'extérieur de moi. Si je ne veux plus qu'il soit, il faut que je le détruise physiquement. Il n'est pas attaché à moi, il est autonome. Il n'y a rien dans l'univers qui est détaché de Dieu parce que la vie vient de lui. Et cette vie-là est en Christ. C'est lui la vie. Oui, Gérard. Oui. Puis, ça a l'air super théorique, OK? Ça a l'air peut-être pas utile à mon quotidien, tout ça. Mais B.B. Warfield, un super théologien, je suis encore en train de jongler avec cette déclaration-là pour vraiment que ça prenne son sens dans ma tête puis dans mon cœur. Mais lui, il dit, accepter, croire dans la souveraineté de Dieu, c'est la solution à tous les problèmes de l'humanité. Lorsqu'il se passe quelque chose qui arrive dans ma vie puis que ça m'inquiète, c'est parce qu'à quelque part, pendant un instant, je crois que c'est peut-être hors du contrôle de celui qui m'a donné la seconde d'avant. D'accord? Moi, là, je respire. Là. Je vais prononcer une parole. Je parle. C'est Dieu qui permet tout ça. D'accord? Dieu est absolument souverain sur toute chose. Tout dépend de lui, de son existence. Alors, tout ça, ça peut sembler très, très loin. Mais en réalité, dans mon quotidien, lorsque Dieu dit qu'il tient ma destinée, c'est lui qui a décidé des jours de ma vie, chaque seconde est entre ses mains. Quand je grandis dans ma connaissance de Dieu à cet égard-là, l'inquiétude, ça devient tellement ridicule. Ça devient tellement ridicule de s'inquiéter lorsque tu réalises ça. Ça ne fait plus de sens. Fait que d'une part, je peux tirer ça, mais d'autre part, la reconnaissance. Si Dieu ne le voulait pas, tous les êtres humains cesseraient de respirer comme ça maintenant. Puis là, nous, on est là, puis là, on parle avec des non-chrétiens, puis là, ils nous disent « Ah, moi, je ne peux pas croire en Dieu, parce que si Dieu était bon, il ne permettrait pas tout le mal qu'il y a là. » Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il te laisse encore respirer. Parce que ça fait des milliers d'années que les êtres humains, ils crachent en pleine face, puis il est là, il est en train de nous pomper tout le temps, puis nous autres, on y crache en pleine face, tout le long. Comprenez? On est sur le respirateur artificiel, c'est lui qui est notre vie. Nous, il crache en pleine face, puis il continue. Puis il dit, veux-tu te repentir? Je veux juste te donner la vie éternelle. Je te tiens en vie, là. C'est en attendant que tu passes devant le jugement. Tu veux-tu juste te repentir? Je veux te donner la vie éternelle. Nous, on y crache en pleine face. C'est ça qu'on fait. Puis lorsque tu réalises ça, tu réalises c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce d'un Dieu qui est patient? Il est en train d'exprimer sa bonté puis sa patience envers les hommes, qui le méprisent. Et il est encore patient. Puis il dit, vas-y, repends-toi, je veux t'accueillir pour l'éternité. Là, je te donne la vie, mais je veux te la donner, la vie éternelle. Viens-moi maintenant. C'est bon? Vous pourrez continuer à lire les notes. Je dois m'arrêter ici. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, je parle de ces choses-là comme si je les comprenais, Seigneur. Mais tu sais, dans le fond de mon cœur... Je me sens tellement petit devant la grandeur de ta personne. Et je n'ai pas le goût d'être plus grand, Seigneur. Je n'ai pas le goût de tout comprendre. J'ai envie simplement d'apprécier davantage, Seigneur, ta grandeur. De le saisir, mais avec mon cœur, pour y trouver tout le repos et la paix qui se trouvent là, Seigneur. Et oui, Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissant que tu sois venu sur cette terre. Que cette parole qui est merveilleuse, qui est grande, soit venue prendre une forme humaine, devenir un être humain pour nous rencontrer dans notre faiblesse. Que tu es bon, Seigneur. Seigneur, je te demande de nous enseigner comme Église, chacun d'entre nous, à réconcilier dans notre cœur, dans notre pensée, cette vérité. Que tout ce que nous voyons en toi de plus beau, Jésus, est une révélation du Père. Et combien ton cœur doit être attristé lorsque nous prenons plus plaisir en toi, comme si tu étais plus gentil, plus aimable, plus doux que ton Père, alors que ton seul but, ton seul projet était de faire connaître le Père. Nous reconnaissons ce matin, Seigneur, qu'en toi, nous avons connu le Père. Que ta douceur, ton amour, ta compréhension, ta tendresse sont toutes des manifestations de ce Dieu créateur. Et nous t'adorons, Seigneur, ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.